Merci tout le monde, merci Marie-Thérèse et bonne fête, étant donné la Sainte-Thérèse d'Avila aujourd'hui, donc à toutes les Thérèses, notre pensée, notre prière. Merci à tout le monde pour cette opportunité que vous me donnez. Pour moi, c'est découvrir Nantes, c'est ma première fois hier. Je suis arrivé à Onodière, la maison SMA. Aujourd'hui, je découvre les réalités de cette région, de cette église, de cette présence si significative dans ce milieu dans lequel nous nous trouvons. Bon, moi, je suis là pour témoigner de mon histoire qui, pour ne pas la limiter dans le cadre de ces 2 années, et 3 semaines de captivité, 752 jours que j'ai compté jour après jour, et ça a été très long. Disons que ma vie de missionnaire SMA commençait en 86, d'abord comme première mission en Côte d'Ivoire, où j'ai passé 10 années. Ma première mission, la joie de me retrouver parmi tous ces pagnes, toutes ces couleurs, une Afrique colorée, une Afrique qui danse, une Afrique pleine de joie, malgré les réalités des souffrances qu'on rencontre, mais dans un cadre de joie, de couleurs, de vie qui unit l'hymne à la vie. C'est ça pour moi l'expérience que j'ai faite dans la première expérience en Côte d'Ivoire. Il y a eu une deuxième expérience au Niger, entre les deux, j'étais rappelé en Italie pour un service d'animation missionnaire et un service à la province. En 2007, je suis reparti pour le Niger, invité par l'évêque du Niamey, notre confrère SMA, l'évêque Michel Cartategui, qui aujourd'hui est membre du conseil provincial de la province de France, pour une présence au milieu du peuple Gourmandié. Et c'est là que j'ai vécu cette deuxième expérience pastorale missionnaire à Bomanga avec des confrères de France, dont le père François Moulin, que je vais rencontrer dans quelques jours à Chaponneau à Lyon. Et cette deuxième expérience était, je pourrais la mettre sur ce titre, vivre la pastorale de la natte. Ce n'est pas mon expression à moi, c'est l'expression du premier évêque de Niamey, le père Monseigneur Hippolyte Berlier, qui invitait les missionnaires et tous les agents pastoraux, prêtres, sœurs, catéchistes, à vivre la pastorale de la natte. Qu'est-ce qu'il entendait par là? La natte, vous savez, c'est la chaise, c'est le lit où les gens s'assoient et reposent. Alors, allez-y, disait aux missionnaires. Asseyez-vous sur la natte des gens, apprenez la langue locale, écoutez, vivez cette relation d'amitié avec tout le monde. Vous savez, le Niger, 98% c'est musulman, et donc la minorité chrétienne est vraiment une toute petite communauté. On est le 0,2, le 0,5 si on veut associer tous les chrétiens d'autres confessions. Mais c'est une présence appréciée par les populations dans lesquelles nous nous trouvons, pour cette présence de disponibilité à vivre au pas et au quotidien la vie de nos frères et de nos sœurs que nous rencontrons. Et c'est là, après avoir passé ce temps sur la natte, il disait, vous pouvez vous lever pour marcher ensemble. Ce n'est pas pour apporter, ce n'est pas pour aller faire, ce n'est pas pour aller aider, c'est surtout pour marcher ensemble. Donc les initiatives peuvent sortir de cette écoute. Et c'est comme ça que peut-être vous connaissez davantage ce volet missionnaire qui est très actif, donnant de l'eau potable dans tous les villages, combien on en a créé, des forages, des points d'eau potable pour tout le monde, parce que l'eau est la santé, et l'eau qui n'est pas propre cause beaucoup de maladies, mais un centre nutritionnel pour les enfants, malnutri, parce que au Niger au moins la malnutrition est aussi une des grandes causes de mortalité d'enfants. Ainsi de suite, la maternité, on en a créé deux dans la zone de Bomanga pour donner une plus grande chance aussi à la naissance, et parce qu'il y a encore des femmes qui décèdent en mettant à enfanter l'enfant. Ma première rencontre avec cela, c'était justement avec deux jumelles qui m'ont fait rencontrer, qui étaient là, nées depuis 3 jours. La maman était décédée en les donnant à la lumière. Donc toutes ces réalités qu'on rencontre naissent de cette rencontre d'écoute, d'attention aux réalités de notre population. L'école pour donner une chance, parce que les enfants doivent avoir un futur meilleur. Et l'école de la mission, on n'appelle pas l'école catholique, mais l'école de la mission au Niger, avait plus de 220 enfants de la première jusqu'à CIN, on l'appelait comme ça, jusqu'au CM2. Donc, 6 classes, oui, avec 220 et plus d'enfants qui étaient accueillis de toute la région, parce que c'était un lieu où il n'y avait pas d'école d'État. Donc, on rendait ce grand service. Et l'attention au milieu rural, parce qu'en fait, Bomanga, c'est une région rurale, la formation des jeunes, la formation des agriculteurs pour confronter au changement climatique, donc à toutes ces problématiques. Comment faire face à toutes ces solutions-là. Voilà, c'était ça un peu ma pastorale. Et je me suis trouvé à passer de la pastorale de la natte, qui est aussi très active, d'écoute, à la pastorale du silence. Comme mon frère Jean-Paul l'a bien rappelé tout à l'heure, le 17 septembre, ma vie a basculé. 11 ans de présence active au Niger, et c'est le 17 septembre 2018, voilà, ça a été l'enlèvement improviste. On n'avait jamais pensé à tout cela. On savait qu'il y avait, la région était un peu menacée, mais c'est très loin. On pensait au Mali, on pensait dans d'autres régions du Nord. On ne croyait pas que cela allait arriver jusqu'à nous. Pour moi, ça a été une surprise. Pour la population, ça a été une surprise. Cette nuit-là, on a traversé tout de suite la frontière. Bomanga se situe à la frontière avec le Burkina. On est au sud-ouest du Niger, près de la frontière du Burkina. On a pris en moto, bandé, et on a traversé la frontière. Et après, ça a commencé un long voyage. Il m'a amené pendant 17 jours, toujours au nord, toujours sur cette moto, avec deux motos, une devant, une derrière, qui m'accompagnait avec ces jeunes, toujours armés. Ils m'ont fait monter, traverser le Burkina, rentrer au Mali, mis sur la pirogue, moto comprise, et remonter le grand fleuve du Niger, je ne sais plus où j'étais à ce moment-là. Et le 4 octobre, on est arrivé dans un lieu où il y a plein de gens armés. Je croyais, bon, c'est peut-être l'arrivée, parce qu'il me disait toujours, on doit aller voir le chef. Ma grande surprise, ce fut le 5 octobre 2018, quand un moujahidine s'est approché de moi avec une chaîne en fer, pas plus de 1m20. Il a pris ma cheville, l'a mis dans un cadenas, l'a bien fermé, et l'autre bout de la chaîne autour d'un arbre. Et pendant 22 jours, nuit et jour, j'étais enchaîné à cet arbre. On ouvrait la chaîne juste pour me permettre des petits besoins, mais toujours accompagné par deux jeunes bien armés. Et c'est là que moi j'ai crié. Mon angoisse, je crie à Dieu, je n'ai pas honte de dire que j'ai pleuré, en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel est le sens de cette histoire? S'aimer le bien et récolter de la tempête. Pourquoi ces chaînes? Le voyage ne s'est pas terminé là. Une voiture est arrivée, m'a pris, une autre équipe a pris le relais de la première qui a fait le kidnapping. Et on est monté encore au nord et je me suis retrouvé dans le Sahara, dans les dunes de sable. Il n'y avait pas d'arbres, pas de verdure, rien que l'infini de sable. J'ai fait une première vidéo à 40 jours de l'enlèvement, c'était le 28 octobre, où là j'ai demandé qui êtes-vous. Ils m'ont dit voilà, nous sommes le Génim. Génim, j'ai dit, je n'ai jamais entendu ce nom. Tu connais, ils m'ont dit ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, oui. Voilà, nous sommes un groupe qui est sorti de ce groupe-là. On est donc des djihadistes liés à Al-Qaïda, des groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Ils m'ont demandé de bien dire une vidéo qui devait être une preuve de vie pour le gouvernement italien, pour bien dire que j'étais enlevé et séquestré par ce groupe. Ils m'ont même demandé de dire un mot au pape. Moi, j'ai dit, la première chose que je vais dire, c'est un mot à la famille. C'est ça que j'ai ouvert cette vidéo, qui me rappelle encore très bien. Saluer la famille en les invitant à être forts, à prier. J'ai dit ce qu'ils m'avaient obligé de dire par rapport au nom et au gouvernement italien. Et au pape François, j'ai terminé en disant « François, pape François, rappelle-toi de prier pour moi. » C'est comme ça, quand ils m'ont fait écouter encore l'enregistrement, j'ai pleuré parce que je pensais à ceux qui allaient voir et réaliser ce qui était en train de se passer. Tout en espérant que la chose pouvait se résoudre assez rapidement, parce que voilà, une vidéo est faite, c'est envoyé sur les réseaux, tout est rapide dans ce monde-ci. J'attendais qu'une réponse arrive aussitôt. Entre-temps, il y a Noël qui est arrivé. Il y a des équipes qui sont venues me prendre, me pousser encore plus loin. J'ai fait 6 mois de grande solitude. C'était juste gardé par un groupe de jeunes et c'était le grand silence. Bref, le livre pourra vous dire davantage des détails de ce tant que j'ai vécu. Ce n'est pas seulement l'histoire des jours qui se sont passés, un journal, c'est surtout des réflexions autour des questionnements que je me posais sur le sens de cette mésaventure. Quel est le sens de tout ça? J'ai trouvé après 6 mois 2 autres prisonniers italiens avec qui j'ai partagé un peu de paroles, on s'est aidé l'un l'autre, on s'est soutenu. Et l'un d'eux a essayé de s'enfuir la nuit, il a été repris le lendemain, mais à partir de cette date-là, on nous avait enlevé les chaînes, parce que dans le désert, c'était une prison à ciel ouvert. Et j'ai retrouvé les chaînes le 14 septembre 2019, juste une année après l'enlèvement. Et j'ai tenu ces chaînes, on n'est peut-être plus attaché à un arbre, mais les 2 pieds étaient enchaînés avec des boulons. Et je pouvais m'éloigner pour mes besoins, mais on ne peut pas marcher. Et toutes les nuits, depuis le coucher du soleil jusqu'à l'aube, on portait les chaînes. Et cela jusqu'à la libération, qui est arrivé le 8 octobre 2020. Bon, ça c'est l'histoire qu'on peut raconter, et aujourd'hui c'est aussi rapide à le dire, mais je vous assure, la première parole que moi j'ai dit à tous ceux qui m'ont revu après cette expérience et dit, mais ça a été dur, comment ça a été? J'ai dit non, ce n'était pas sur ce côté-là, ça a été long, très très long. Moi j'ai un souvenir des jours qui ne finissaient pas. Maintenant c'est la deuxième année que je suis en liberté, et ça m'apparaît un temps rapide, je ne l'ai pas vu passer ces deux années. Mais là je me rappelle, c'était un temps très 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 long. De cette expérience, je ramène trois cadeaux. Je ne vais pas insister sur ce que j'ai vécu, mais plutôt ce qui a été ma manière de voir après cette histoire, cette expérience. Trois cadeaux qui sont aussi trois objets. L'un d'eux, c'est la seule chose que j'ai pu ramener de cette captivité. Je les ai cachés sous les pantalons quand on m'a dit qu'on allait sortir, vous prenez rien qu'une bouteille d'eau, c'était ça la consigne, tout le reste qu'on avait, le sac, les choses, les habits qu'on nous avait donnés, on les a jetés. Et j'avais mis de côté, j'avais même cousu une poche, une pochette, et je l'avais mis sous mes vêtements. Le cahier sur lequel j'ai écrit mes réflexions, la chose qui nous ont permis, pas tout de suite, mais quand on avait demandé un bic, un cahier, voilà, un cahier comme ça, il y en a trois sur lesquels j'écrivais. En fait, le livre naît de cette réflexion que j'ai fait en situation. Ce n'est pas une réflexion que j'ai fait après, mais ce que je pensais, ce que je vivais, ce que j'ai. Toutes mes réflexions étaient. Et là, j'ai voulu, en quelque sorte, faire ce livre pour dire à ma famille et aux amis ce que je n'ai pas pu leur dire pendant ces deux longues années. Et aussi, peut-être, pour servir aux familles qui ont des prisonniers, qui ont des otages, et malheureusement, il y en a d'autres, je suis en contact avec certains, et c'est des familles, de ces frères et sœurs, et enfants, pour leur dire, voilà, comment on vit de l'intérieur cette expérience. Donc il y a un cahier, il y a des morceaux de carton que j'ai arraché de la fourniture de nourriture qu'on nous donnait. Il y a même une étiquette d'ananas qu'on nous a donnée sur laquelle l'arrière était bien blanc. J'écrivais certaines notes. Ça c'est la dernière page. En fait, vous voyez le blanc qui est en bas, c'est la dernière semaine. Après j'étais libéré. Donc c'est la dernière feuille de ce cahier que vous pourrez apprécier par vous-même. Bon, ça c'était une des choses que j'avais avec moi, que j'ai mis dans cette pochette. Cet anneau de la chaîne à laquelle j'ai été enchaîné pendant une année et plus, c'était le seul anneau qui n'était pas soudé. C'était, je vous ai dit, un mètre vingt peut-être de longueur, et je voyais la fissure entre les deux bouts. J'ai tout fait quand je m'éloignais pour me soulager ou autre, avec des cailloux, avec des morceaux de bois, des morceaux de fer qu'on avait trouvé, le couteau qu'on utilisait pour la cuisine, pour l'ouvrir. Et j'ai pu l'ouvrir. Et après, ils m'ont changé de boulon, je n'ai pas pu faire autre chose, mais j'ai voulu garder cela parce que ça me rappelle le premier cadeau de ce désert. Cette forte communion avec toutes les victimes innocentes. Je me sens une victime. Combien de fois je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai parlé? J'ai dit quelque chose qui a pu offenser? Non, je vous assure, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien fait comme geste, je n'ai rien dit comme parole. Mais c'est un grand pourquoi. Et je pense que je le partage avec toutes les personnes qui vit des situations, des maladies, des accidents, d'imprévus qui arrivent et qui changent d'un moment à l'autre ta vie. Cette communion avec toutes les victimes. Il y a un deuxième cadeau que je porte à ma poignée. En fait, c'est un morceau de tissu qui me protégeait du soleil, sur la tête, dans ce désert, J'ai arraché, j'ai fait des nœuds, 10 nœuds, c'était mon chapelet. Mais cela, il me rappelle le deuxième cadeau, je vous dis, du désert, parce que ce que j'ai découvert dans ce silence, et dans cette nudité, c'était que la chose essentielle, c'est la relation. J'ai souffert le soleil, la chaleur, le froid. Pendant l'hiver, on avait 2 couvertures et on grelottait parce qu'il faisait froid. Comme on appelle la température descend d'une manière très forte, de 40 degrés du matin ou 12 degrés de la nuit. Il fait vraiment froid. J'ai mangé ce qu'on me donnait. J'ai bu l'eau parfois à la saveur d'essence. Mais ce qui plus me manquait, c'était ne pas pouvoir communiquer avec ma famille, avec mes amis, la communauté. Combien de fois j'ai demandé de pouvoir téléphoner. C'est cette communion qui fait la relation, qui fait belle la vie. Quand il n'y a pas amour et liberté, manque l'essentiel. Et ce chapelet, avec tous ces nœuds-là, c'était le lien qui me permettait d'être en communion. Je portais en prière toutes ces personnes qui j'ai dans le cœur. Je priais pour la paix, pour les persécuteurs de la paix, pour les villages. D'ailleurs, c'était un jour en regardant mes pieds enchaînés que je me suis dit, mais c'est vrai, mes pieds sont enchaînés, mais mon cœur, non. Il ne l'est pas. Comment je peux être missionnaire dans les chaînes? Je ferais comme la petite Thérèse. Elle qui a découvert sa vocation dans ce cloître dans lequel elle vivait, je le vois à son image devant moi, patronne des missions. Je serai dans l'Église, l'amour, le cœur qui pulse pour porter oxygène, vie aux périphéries du monde. Voilà. Dans cette expérience, moi j'ai découvert la valeur contemplative des missionnaires et aussi la valeur missionnaire des contemplatifs. Et cela, c'était mon link, mon lien avec tout ce monde. Et je portais à Marie tous les nœuds et aussi ce grand nœud de ma captivité. Marie et l'Esprit Saint, c'était l'autre prière que tous les jours je faisais parce que Bomanga est sous le patronage de l'Esprit Saint. Le Père Louis Lopez, notre confrère qui a fondé cette paroisse, était un homme charismatique, il a voulu comme patron l'Esprit Saint, et Pentecôte était notre fête patronale. Et depuis le 2017, quand on a réalisé une nouvelle église, on a mis sur le mur de l'église cette prière, la séquence de Pentecôte. On l'a fait en langue gourmanchema, et tous les jours avec la communauté on priait. Et moi, j'ai continué à prier cette prière en communion avec eux. Et je me disais, quand l'Esprit et Marie se rencontrent, ils font des merveilles. C'est la Noël. L'Esprit a habité Marie et l'a engendré la parole de Dieu. À Pentecôte, l'Esprit sur Marie et sur les apôtres a engendré l'Église missionnaire. Donc je faisais confiance à ces 2 compagnons et c'est ça le lien de ma prière et de cette communion avec le monde. Le troisième objet que j'ai réalisé moi-même, quand on bricole, on ne sait pas quoi faire toute la journée, avec ce couteau qui faisait la cuisine, et en même temps je prenais un bout de bois pour préparer, ça servait. Il y avait un bois très 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 facile à manier, c'était une pièce unique. J'ai enlevé le nœud qui était au milieu et après j'ai dit, mais regarde-moi ça. Ça devient une croix. Je ne l'ai jamais montré, ni à mes compagnons, ni surtout au Moujahidi. Ils ne voulaient pas voir un symbole pareil. Une fois, j'avais fait une petite palette, je ne sais pas comment on dit, pour chasser les mouches. C'était coupé en 4 points, ça montrait une croix. Il y a un qui est arrivé, il me l'a arraché, et j'ai dit, ça peut... Il l'a jeté, il l'a déchiré en tout petit morceau. Donc, je faisais gaffe de ne pas montrer. Mais j'ai dit, cette croix, je vais la garder. Elle pourra être avec moi sur les petits hôtels de Bruce, quand je pourrai célébrer. Mais surtout, elle me rappelle le grand silence. C'est le troisième cadeau du désert. Le silence de la croix. Sur cette croix, je criais avec Jésus, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'était pas une prière de désespérée. Mais je me dis, je vous assure, je pardonnais du fond du cœur. Ça a mis du temps. Mais petit à petit, j'ai eu un autre regard, même sur ce jeune qui me gardait avec un kalachnikov sur l'épaule. Je me suis dit, en fait, c'est eux les vrais otages. Otages de l'analphabétisme, otages de la propagande. Ils avaient tout le temps des petits portables avec de la propagande djihadiste. On connaissait par cœur toutes les sourates qui parlent du djihad. Mais en fait, ils sont esclaves de cette réalité. Ils ne voient pas autre chose. Et les possibilités que j'avais avec eux de dialoguer, de raconter ce que je faisais, je disais, si je suis en Afrique, c'est vraiment pour une manière alternative à la guerre. Ce qu'on fait pour vos femmes, vos enfants, la population, c'est pour montrer une autre dimension. Et j'ai pardonné du fond du cœur, même pour tous ceux qui m'ont fait, et la souffrance qu'ils ont causée à ma famille, à ma communauté, à tous les amis. Voilà, ce sont les trois cadeaux que je ramène de cette expérience. Une dernière parole avant de laisser chacun de vous peut-être la parole pour d'autres questions qui peuvent intéresser votre intérêt. Je vous disais, je suis passé de la NAT, la pastorale de la NAT, à la NAT du silence, la pastorale du silence. En effet, j'ai passé longtemps à méditer, à écrire, à chercher, parce que cette expérience m'a permis d'aller en profondeur, de descendre de la surface au plus profond de moi-même, découvrir la prière du cœur, porter le monde entier dans cette prière, prier pour les périphéries du monde. Je me suis laissé envelopper par ce silence qui était extérieur, c'était intérieur, qui était le silence de Dieu. Mais je crois d'avoir perçu, peut-être les paroles n'arrivent pas à dire, comme dans ce silence de Dieu, j'ai découvert que Dieu est l'indicible, l'inconnaissable. Il est au-delà de la parole. Dieu est silence. Je pensais à Jésus. Il se retirait dans le silence, la nuit comme le matin très tôt. Il entrait dans ce silence de Dieu, il en ressortait avec une parole créatrice, les paraboles, les messages qu'il nous a donnés, la bonne nouvelle, ou une parole libératrice. Il a guéri les lépreux, il a guéri les aveugles, il a libéré l'homme de toutes ces chaînes qui sont visibles et invisibles. Mais c'est dans ce cœur du silence. Moi, j'ai perçu que le silence n'est pas un espace vide, mais c'est la possibilité pour que quelque chose de nouveau puisse se réaliser, puisse ressortir. Dieu est silence. Dieu est libre. Personne ne connaît Dieu. Dieu seul, Jésus seul, nous l'a révélé. Et alors, je me suis laissé conduire par ce cheminement. Et je peux dire aujourd'hui que la parole est née du silence. Le silence est père et mère de la parole. Et que la prière est une manière essentielle. Harmonie des deux silences. Ce n'est pas mon expression, c'est de Saint Jean de la Croix qui le dit. Mais je l'ai vécu profondément. Harmonie des deux silences. Bref, je suis là. Je suis libre, je veux remercier Dieu, je veux remercier tous les amis, toutes les personnes. Là où je passe, j'ai des échos des gens qui me disent « on a prié pour toi ». Je le crois fortement d'être le fruit de cette prière mondiale. Parce que ce n'est pas seulement de mon village, de mon diocèse, de ma communauté, des communautés que j'ai connues, soit en Afrique, soit en Europe, en Italie particulièrement, mais au-delà de ces confins, de ces frontières. Beaucoup de gens ont porté en prière, et je vous invite à ne pas arrêter, de continuer, Il y a d'autres tâches, je les cite dans mon livre. J'en ai rencontré un, Christopher Botman, c'est sud-africain, blanc, qui était élevé avec son chef indien. Lui, il a été libéré, l'autre, il n'est pas encore libéré. Il y a Julian, qui était roumain, qui est là depuis 7 ans. Moi, j'ai fait 2 ans, mais maintenant, je dois le dire à voix basse, c'était long, mais 7 ans, c'est énorme. Et bien d'autres. Olivier Dubois, français, lui aussi, ça fait déjà plusieurs années qu'il est là. Une famille italienne qui a été kidnappée au Mali le 19 mai cette année, 2022. Voilà, ma prière du matin commence avec cette litanie des 10 noms, occidentaux et pas seulement. Mais la population est otage. Même à Bomanga, les gens ont dû quitter des villages parce que l'insécurité a augmenté. N'oublions pas tous ces gens qui souffrent. Et si vous voulez bien vous associer avec moi tous les matins, ma prière du matin commence par une dizaine de « Je vous salue Marie » pour la libération de tous les otages au Sahel. Je voulais terminer sur un dernier mot. Maintenant que je suis libre, je me sens appelé à libérer le pardon, à libérer la fraternité. Combien de fois je cherche, je dis, mais il faut y avoir une autre manière de résoudre les conflits, cette guerre. Je l'ai vu de l'intérieur. Et ce n'est pas, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Mais il faut savoir trouver d'autres manières pour résoudre les conflits, les palabres. Et j'ai pardonné et même j'ai eu le courage ou bien la force le jour de ma libération, le 8 octobre, quand on me conduisait sur la voiture. J'ai dit à Bounazer, ce chef qui la dernière année nous a gardés, qui était le contrôleur, qui venait tous les mois, les 2 mois, vérifier si tout allait bien, nous donner des nouvelles, il nous parlait de la négociation en cours, et ainsi de suite. Mais très réticent envers moi surtout. Il ne me donnait pas toujours la main pour me saluer. J'étais un kafir, j'étais indigne, j'étais impur. J'ai dit à Bounazer, j'ai une parole à te dire, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai pris mon souffle et tout d'un coup, lui qui comprenait bien le français, je lui ai dit que Dieu nous donne de comprendre un jour que nous sommes tous frères. Il a levé les mains de son guidon, du volant et non, 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 absolument. Moi, je n'ai pas répliqué, j'ai gardé mon silence et je lui ai offert ma fraternité humaine parce que je crois que de là peut naître vraiment un monde nouveau, un monde de paix. Je n'ai pas été torturé ni maltraité, mais j'ai reçu des insultes. Et je vous assure que la parole blesse, elle fait mal. Je me suis dit, je ne vais pas répliquer de la même manière. D'ailleurs, revenu à la liberté, grâce au Covid, j'ai fait un temps de quarantaine. Et j'ai pu trouver un milieu tranquille. Chez moi, j'allumais le téléviseur pour voir les nouvelles, pour écouter quelques réalités, pour me mettre à jour après 2 ans de silence. Et j'ai entendu des paroles violentes, soit dans la politique, soit dans le sport, soit dans les chroniques de la vie quotidienne, familiale, des féminicides, disons en italien, pour les femmes qui sont tuées, les enfants qui sont maltraités. Mais je dis, mais d'où commence tout ça? Tout cela commence par la parole. Nous avons des paroles armées. Il faut désarmer la parole. Parce que la parole est l'étincelle qui enflamme la main. Ça peut être un gifle, ça peut être un coup de poing. Et si sa main est armée, voilà l'homicide, voilà la guerre. Désarmons la parole. C'est là qu'on peut désarmer les mains, on peut désarmer le regard. Et ne pas voir seulement des ennemis devant nous, mais des humains. Je ne peux pas dire des frères, c'est peut-être un langage trop catholique ou trop chrétien, mais des humains. Des personnes qui ont la même nature que moi. Quand on déshumanise les relations, c'est la guerre, c'est les conflits, c'est tout ce qui est mauvais, nous pouvons constater, et on s'étonne de l'entendre et de les voir. Ma campagne aujourd'hui, c'est de libérer le pardon, libérer la fraternité. Je me considère le missionnaire de la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti. D'ailleurs, à la radio, j'avais entendu le 5 octobre, on nous avait donné une petite radio sur RFI, que le pape avait signé cette lettre sur le tombeau de Saint François d'Assise, les trois soirs, et moi je suis sorti le 8 octobre. Je me sens engagé comme missionnaire pour proposer cette fraternité que j'ai proposée à Buenos Aires, que j'ai donné de cœur à tous les moujahidis. Je n'ai pas de la haine, je n'ai pas de la rancune. J'ai pardonné, j'ai offert ma fraternité humaine. Je suis en paix. Je vous remercie.
Merci au Père Rudy pour sa présentation. Vous m'entendez ?